Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon de plusieurs villes qui sont en campagne électorale. Trois-Rivières, Victoriaville, Laval, on retourne même dans la vieille capitale. D'ailleurs, nos questions vont servir à faire un état des lieux de l'accessibilité universelle. C'est pour ça qu'on est là. Sur vos murs Facebook, disons sur un autre ton, vous avez certainement croisé des tonnes de dièses « me too », des dièses « moi aussi ». On va réagir collectivement, personnellement, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de convier la sexologue Sonia Boucher, qui va nous parler d'éducation à la sexualité. On pourrait peut-être même ajouter d'éducation au consentement. Dans quelques instants, sur une autre note... Sur une autre note aussi, François Lauzon, qui a gagné une bataille contre la Société d'assurance automobile du Québec pour les droits des personnes amputées, on le rencontre plutôt alors qu'on apprend tout juste que la SAQ veut contester le dernier jugement qu'il a pourtant emporté. Tout ça, il y a trop de R, qu'est-ce que vous voulez, les tons se mélangent, un peu ému en même temps, ça paraît pas, mais là je vous le dis pareil, tout ça pareil sur Canal M. On rencontre aujourd'hui François Lauzon. Après un accident, il se fait prescrire la pose d'une prothèse qui pouvait garantir son autonomie. La Société Assurance Automobile du Québec, qui est le payeur, refuse. Donc, François Lauzon s'est battu au tribunal administratif et il a gagné. Donc, alors que la Société d'État annonce aujourd'hui qu'elle voudrait en appeler de la décision, on rencontre ce David contre Goliath qui a commencé à changer les choses pour vous, les personnes amputées. Bonjour, Monsieur Lauzon.
Oui.
Bonjour, je suis désolé, je vous ai déjà donné le rôle social important que vous avez. Là. D'abord, je tiens à vous dire bravo pour avoir, pendant ces 4 années, persisté, toléré. Je vous êtes un exemple, monsieur.
Bien, oui et non. C'est par contre, j'ai été extrêmement chanceux qu'il y a une organisation qui s'appelle les Amputés de guerre du Canada qui ont décidé de m'aider dans ma cause contre la SAC.
Je comprends tout à fait.
Moi, je suis dyslexique, j'ai de la misère à lire et écrire. Mm-hmm. Ces personnes-là ont fait beaucoup de documentation, ils ont étudié les lois qui étaient impliquées dans tout ça. Puis ils se sont aperçus que la SAC, il y avait certaines réponses, comme quoi qu'ils ne voulaient pas me payer une prothèse avec de la technologie, parce que ça ne ramènerait pas ma jambe, même avec une bonne prothèse, ça ne me ramènerait pas ma vraie jambe. Mm-hmm. Pour cette raison, on ne paye pas la prothèse. Et ça, c'est toutes des choses qui ont été écrites et signées par les personnes qui étaient en charge de mon dossier. La deuxième excuse qu'ils ont donnée pour ne pas payer la prothèse, c'est à cause que quand j'ai eu mon accident, j'ai une séquelle permanente dans mon épaule gauche. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils ont dit à cause que tu es handicapé, tu es trop handicapé pour avoir cette prothèse-là. La troisième excuse qu'ils ont donnée pour ne pas payer la prothèse, c'est parce que je faisais beaucoup de natation puis j'étais à l'aise dans l'eau. Mmh. C'est-à-dire, pour ma réinsertion sociale dans la société, j'avais pas besoin d'avoir une prothèse avec de la technologie. Puis la quatrième excuse qu'ils ont donnée, c'est qu'ils m'avaient assigné un emploi, agent téléphonique dans un centre d'appel. Mmh. C'était une fonction que je pouvais faire en fauteuil roulant. C'est-à-dire, pour cette raison-là, ils ne voulaient pas payer la prothèse. C'est-à-dire, ça allait un peu de la discrimination contre les amputés.
Ben oui, complètement. Puis écoutez, je recommence en vous disant, bien sûr, vous avez été valeureux, vous êtes battu, mais faut rappeler que les amputés de guerre vous ont grandement aidé. Hein. Puis c'est pas tout le monde qui connaît les droits et la loi, là, monsieur, en passant. Mais je rappelle quand même que vous êtes un exemple. Revenons maintenant à la décision de la SAC. On essaie de mettre les gens dans des petites cases, si je comprends bien. Parce que vous, si vous voulez garder le même emploi, si vous voulez obtenir la même autonomie, on juge que c'est pas nécessaire. En fin de compte.
Qu'est-ce qui arrive, c'est que la SAC, eux autres, leur philosophie, c'est de nous retourner sur le marché du travail le plus vite possible, au moindre coût. C'est-à-dire, tout ce qui se rattache à notre séquelle permanente de notre accident, ils disent, on est là pour vous aider, mais en réalité, mon impression, OK, on va t'aider, d'abord que ça ne coûte rien. La minute que ça coûte quelque chose, ils vont dépenser plus d'argent côté administratif et avocat pour ne pas donner les adaptations puis les composantes qu'on a de besoin. C'est-à-dire, jusqu'à date, ils ont peut-être dépensé 5 à 6 fois le coût que ça leur a coûté pour m'appareiller puis que j'ai une vie plus proche de ce que j'étais avant.
Donc, ils ont été capables de sortir le grand marteau, là. Mais c'est aussi parce que
c'est
votre
cause... C'est pas une question de marteau, c'est une question d'administration qui ne finit plus.
Bien sûr.
Comme la première demande qu'on avait faite pour avoir le genou génium, c'était pour prévenir les chutes, puis pour des raisons médicales, parce que j'allais marcher mieux, j'aurais eu une meilleure démarche, puis tout ça, parce que le genou, il y a un ordinateur dedans, ça dit j'aurais eu une meilleure marche, tout ça, ça dit ça l'aurait enlevé comme de la pression sur ma colonne vertébrale, ma hanche, ces choses-là. C'est-à-dire, à long terme, j'aurais eu des bénéfices médicaux. C'est-à-dire, eux autres, ils n'ont pas voulu reconnaître ça. J'ai été chanceux, l'université Brock, il y avait une faculté où ce qui étudie la marche de personnes qui ont été accidentées, soit par maladie ou des accidents traumatiques.
Ah oui.
C'est-à-dire, ils ont mis des détecteurs de mouvement sur moi avec des détecteurs de contraction musculaire. Puis ils m'ont fait essayer les deux genoux. Le genou que la SAC dit qui est bon en masse pour moi, j'ai pas besoin de mieux que ça. Puis le genou informatisé. Puis ils m'ont mis comme un genre de plancher qui bougeait, soit avant ou par en arrière, tout ça. Ça veut dire, quand ils ont provoqué une chute, puis avec le genou intelligent, microprocesseur, j'ai pas tombé une fois, puis avec l'autre genou, je tombais. C'est-à-dire, on a pu prouver médicalement que le genou allait m'amener des bienfaits médicaux à long terme. Premièrement, prévenir les chutes, surtout que mon épaule gauche, mon bras gauche, il est moins vite qu'il était avant. C'est-à-dire, si je m'enferme quelque chose comme ça, j'ai moins de chances de me sauvegarder d'une chute. Tandis qu'avec le genou microprocesseur, on l'a prouvé scientifiquement.
Ah oui.
Puis des personnes, l'Université Brock était à travers le monde, voir s'il y avait d'autres docteurs qui avaient fait des études similaires. Puis là, ils sont aperçus qu'il y en avait d'autres. C'est-à-dire, quand le monsieur écrit son document, il a fait de référence à tous les autres instituts universitaires qui avaient eu les mêmes résultats. C'est-à-dire, oui, le genou, on a pu prouver à la SAC que le genou, médicalement, on avait besoin. La réponse de la SAC, ils ont trouvé. Puis c'est drôle parce que c'était Maître Chang qui s'est occupé de ma révision pour la SAC. Elle dit que toute la documentation qu'on leur avait envoyée, c'était du chinois pour eux autres.
Mais
tout de suite en partant, légalement, une institution comme la SAC ne peut pas dire c'est du chinois pour nous autres, parce que c'est un propos discriminatoire.
Ben là, non, mais ça c'est clair. Puis en plus, je connais bien Maître Chang, c'est quand même mal choisi dans les circonstances. Sauf que vous avez réussi à démontrer de manière très claire que médicalement, il y avait plus de bienfaits pour l'avenir d'opter pour cette prothèse-là. C'est ça que vous avez réussi à faire avec les amputés de guerre, c'est ce que je comprends,
oui.
Puis l'Université Brock.
Oui.
Mais je vais prendre une leçon d'humilité, là. Je vais vous présenter comme héros, je m'excuse. Mais il reste quand même que, et le jugement que vous avez porté avec les amputés de guerre va changer les choses pour les autres personnes amputées dans l'avenir, et les recherches que vous avez permis de faire avec l'Université Brock va démontrer que la rentabilité à long terme, il faut y penser parce que c'est ça qui est le plus logique. Mais ceci dit, là, il y a tout ce parcours-là, vous avez travaillé pendant 4 ans, il y a un jugement qui est tombé. Aujourd'hui, où on se parle, où on en est, qu'est-ce que vous avez eu comme signal de la part de la SAC?
La SAC, premièrement, il a enlevé mon agent d'indemnisation.
Puis là, donc ça, c'est la personne qui est responsable de regarder au quotidien ce que vous avez comme dépenses, etc. C'est ça?
OK. Quand on a eu la décision du tribunal administratif le 15 août, eux autres, la SAC, ils donnent tout le temps, des fois jusqu'à 2 semaines, avant de digérer l'information.
Okay.
C'est-à-dire, sur papier, eux autres, ils ont dit qu'ils ont eu ça le 29 août. La décision a été donnée le 15. Eux autres, le 29 août, mon agent d'indemnisation, il l'avait sur son bureau ou son ordinateur.
Oui.
Le 5 septembre, il y a eu la soumission de la place où ce qu'il allait m'appareiller avec le genou informatique, tout ça. Mm-hmm. Puis quand j'ai demandé à mon avocat, j'ai dit où que je peux aller. Il dit à la place la plus proche de ton domicile. À cette heure, je suis un résident de Niagara-on-the-Lake, c'est-à-dire je vais à Sainte-Catherine, c'est là où ce qui est mon prothésiste, puis c'est lui qui m'a rentré à l'université pour faire toutes les études, puis tout ça, parce qu'il est en train de faire un doctorat pour le mal fantôme.
Oui. Ça, c'est-à-dire sauf que, tristement, la radio ne rend pas bien compte de tous les détails. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il refuse votre indemnisation. Expliquez-moi ce qui se passe précisément là, à ce moment-ci.
OK. Précisément, la réponse de la SAC se demande s'il y a un genou moins dispendieux que la génium.
OK. Donc, ils cherchent une solution intermédiaire entre ce qu'ils ont proposé au début et ce que votre médecin ou vos médecins ont prescrit.
Oui. Bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la génium, elle a été prescrite, elle a été refusée.
Mm-hmm.
Finalement, le tribunal administratif ordonne à la SAC de me payer la génium.
Mm-hmm.
Puis là, la réponse de la SAC, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose de moins dispendieux?
OK. Donc, c'est ça qui devrait composer leur demande d'appel de la décision du tribunal administratif. C'est ce qu'on croit?
Oui, bien, de qu'est-ce que mon avocat me dit.
Okay. Mais là, on va pas rentrer dans les détails non plus, là, parce que je veux pas que vous exposiez votre défense à venir, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas encore digéré ce qui s'est passé, la décision rendue. C'est ce qu'on comprend.
Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que à travers les branches, j'ai entendu dire qu'ils ne s'attendaient jamais que le juge allait me donner cette décision-là. Mm-hmm. Eux autres, ils étaient sûrs qu'ils allaient refuser.
Hmm.
Quand lui il a accepté ça, puis j'ai envoyé ma soumission, il y a des cloches qui ont sonné.
Ben oui, je comprends.
Même, il y a un médecin physiatre du Québec qui me dit, François, il dit, si jamais il y a quelqu'un, un juge va plaider en ta faveur, il dit, il va y avoir des cloches qui vont sonner à la salle. Quand
ils vont voir la soumission. Bon, on les a entendus, les cloches, très fort, et on est très content que vous ayez persisté dans cette aventure. François Lauzon, on va devoir se quitter à ce moment-ci, mais on surveille de très près l'évolution de votre situation. Donc, rappelons que vous avez gagné avec les amputés de guerre du Canada une bataille contre la Société d'assurance automobile du Québec pour tous les amputés, disons-le. Merci beaucoup, François Lauzon.
Mais c'est moi qui vous remercie pour me rendre ça public. Puis,
oui.
Si jamais vous avez besoin de d'autres informations, tout ça, je suis à votre disposition.
Très content d'entendre ça. Au plaisir, M. Lauzon. Le 4 octobre dernier, Altergo, en collaboration avec Vues et Voix, proposait un café sur l'accessibilité avec ses membres et des représentants des deux principaux partis politiques montréalais. Donc, on est rendu là? Oui, je suis sûr. Et donc, il faut que vous le sachiez, Monique Vallée a pris la parole, évidemment, en défendant son bilan, puisqu'elle était la personne responsable sous l'administration Coderre de l'accessibilité universelle. On entend
l'accessibilité universelle, c'est un de mes nombreux dossiers, mais je pense que je l'ai placé pas mal en priorité pendant les 4 ans qu'on était ensemble. On a réussi à avancer quand même. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a réussi à sensibiliser les gens. Et moi, quand j'ai fait la tournée au début de la formation de tous les arrondissements pour qu'ils sachent quels programmes ils avaient à leur disposition, je pense que ça, c'était le coup qui a donné vraiment l'élan pour qu'on aille plus loin ensemble. Il y a aussi eu la formation des arrondissements, entre autres, la sensibilisation au niveau du comité exécutif. Je pense aussi que ça prend beaucoup d'ampleur parce que les services, les gens ne sont pas toujours habitués à faire des portes assez larges, hein, vous le savez. Et ce que je trouve formidable, c'est que les gouvernements, maintenant, embarquent avec nous. C'est qu'on peut travailler ensemble davantage sur beaucoup de projets qui vont émerger dans les prochaines années. Il y a aussi le PAC, le Programme d'accessibilité universelle pour les commerces, que j'ai mis sur pied il n'y a pas longtemps, qui n'est pas encore assez connu, mais qu'on veut faire connaître davantage quand les gens prennent des permis, bien, qu'ils soient invités, les commerçants, qu'ils soient invités à enlever la petite marche, élargir leurs portes, mettre des portes électriques, adapter les toilettes. Enfin, ça comprend une foule de rénovations qui peuvent être subventionnées par la Ville de Montréal. Donc, je pense que ça va être un gros avantage. On est en train de travailler des communications là-dessus.
Et donc, son bilan était clair, mais aussi, on a fait une entrevue ensemble pour répondre un peu mieux aux questions qui étaient exposées pendant le Café Accessible.
Donc, nous sommes à la sortie du Café sur l'accessibilité universelle d'un événement, en fait, organisé par Altergo. On a avec nous Monique Vallée, qui est actuellement candidate à la mairie à l'arrondissement de La Salle, mais qui a été aussi la responsable au comité exécutif de l'accessibilité universelle. Bonjour, Monique Vallée.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Alors, vous avez répondu au nom de l'équipe CODER aujourd'hui à ce Café Rencontre sur l'accessibilité universelle. On sait, vous avez un bilan. Il y a quelques questions en particulier qui ont ressurgi pendant la rencontre. Mais avant d'aller aussi loin, là, commençons. Comment vous avez apprécié l'événement?
Ah, moi, je suis toujours à l'aise quand je les rencontre, ces gens-là. Ce sont des gens extraordinaires, d'abord, parce qu'ils s'impliquent malgré leur handicap. Ils sont là, ils mènent ils en amènent d'autres avec eux. Ils sont dynamiques, ils sont prêts à faire ils ont toutes sortes d'idées. Ils font des marches exploratoires à tous les jours parce que c'est dans leur quotidien. Puis c'est ça qui nous alimente, nous, les politiciens, en tout cas moi. La participation citoyenne est ma priorité. Alors, c'est un groupe avec qui j'ai adoré travailler pendant 4 ans, puis duquel j'ai appris énormément de choses. Regarde, c'est vraiment une belle école.
Donc, vous avez particulièrement travaillé avec Altergo et ses membres?
Un peu tous les... Oui, Altergo et ses membres, si on peut dire. Puis, il y a eu le Raplique, avec qui j'ai échangé beaucoup. Il y a eu Société Logique, Execo, en tout cas, tout le monde qui fait partie de des personnes qui représentent les personnes handicapées. C'est des gens que je connais bien puis que j'aime bien aussi.
Donc, vous avez présenté ici votre bilan au cours de ces 4 dernières années. Vous êtes élu depuis 2013 et vous avez tout de suite eu cette responsabilité-là. Vous êtes positive. Diriez-vous que vous avez un bon bilan à proposer aux personnes en situation de handicap?
Un bilan, vous dites, oui. J'ai l'impression que ça ne va jamais assez vite. Mais les gens me disent, oui, on a fait du chemin avec toi. Oui, En tout cas, il me donne l'impression qu'on a avancé. C'est sûr qu'on n'a pas avancé comme j'aurais voulu, mais je pense que c'est à petits pas qu'on fait des grandes distances. Et je pense que l'arrimage, c'est bien fait, la synergie est bonne, le dynamisme va bien. Fait que je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est sûr, c'est un petit pas en avant, mais un petit pas sur la Lune, c'est un grand pas pour l'humanité. Fait que c'est la même chose ici.
Beaucoup de questions avaient déjà été traitées. Il y en a une qui a ressurgi, dont aucun groupe pour l'instant ne parle, c'est-à-dire les locaux des groupes de personnes en situation de handicap. Vous avez été commissaire scolaire. Vous savez, d'un côté, les écoles et les commissions scolaires rapatrient des locaux, ce qui en fait moins pour les organismes communautaires. Et de l'autre côté, avec les fusions des centres de réadaptation, il y a aussi eu moins de locaux disponibles. On dit qu'il y a plusieurs dizaines de groupes dans cette situation-là. J'aimerais que vous nous dites ce que vous comptez faire pour que ces groupes-là puissent continuer d'aller. Parce que vous savez, quand on loue dans le commercial, c'est des postes pratiquement qu'on enlève pour être capable de payer adéquatement son loyer. Donc, qu'allez-vous faire pour ces groupes?
En fait, il y a justement une étude, un rapport qu'on a reçu qui vient du service des finances et de la diversité sociale à la Ville de Montréal. On était sensibilisés à ce problème-là il y a quelques mois. Ils sont venus nous voir, le regroupement est venu, ceux qui sont en charge du regroupement des organismes sont venus nous voir en nous disant, bien, écoutez, les écoles reprennent leurs locaux, on a besoin de locaux ailleurs parce que nos organismes sont à la porte. Et c'est sûr que c'est dans tous les domaines, hein. C'est autant dans l'alimentation, des banques alimentaires qui ont été obligées de partir des écoles. Et puis, bon, Il y en a qui se sont relocalisés, d'autres sont en train de le faire ou sont en train de... Il y en a un autre qui est en train d'acheter peut-être la bâtisse ou enfin, il y a toutes sortes de solutions, mais il reste que fallait faire une mise à niveau de ce dossier-là parce qu'il y avait des organismes qui étaient très subventionnés, d'autres qui avaient les locaux gratuits, d'autres, toutes sortes d'affaires. Et là, on a reçu le rapport que malheureusement, je ne l'ai pas lu encore au complet, mais je sais qu'il y a plusieurs recommandations en ce sens-là. Et c'est sûr qu'il faut agir vite parce que le mois de décembre approche, la fin de l'année approche, devrais-je dire. Et dans le cas des organismes qui s'occupent des personnes handicapées, c'est encore plus complexe parce que ça demande des locaux accessibles. Alors, il va falloir qu'on regarde ça là, le plus vite possible. Et j'ai déjà des gens là, qui vont m'envoyer leurs coordonnées pour qu'on puisse vraiment là, suivre le dossier davantage pour ces groupes-là.
Nous sommes de retour sur Accès Libre. Donc, c'était Monique Vallée qui a représenté l'équipe CODER à cet événement, mais aussi qui a défendu son bilan, puisque c'était elle qui était responsable des questions d'accessibilité universelle à la Ville de Montréal. Et donc, on se permet, étant donné qu'on est un peu serré dans le temps, de refermer ce moment du café. On aura d'autres extraits dans les deux prochaines semaines. Je fais une exception. D'habitude, il y a une petite musique qui vient, mais c'est très important qu'on en parle avec Sonia Boucher, sexologue chez Sexologue à domicile, puisqu'il y a un déferlement d'annonces sur la maltraitance, le viol, les agressions sexuelles. On est très envahi par ça en ce moment et ça nous fait réfléchir, ça peut même nous faire mal. Et on appelle donc Sonia Boucher pour mieux comprendre la situation. Bonjour Sonia Boucher.
Bonjour, M. Rasset, ça va bien?
Oui, ça va bien. Donc, je rappelle que vous êtes sexologue chez Sexologue à domicile. Comment vous réagissez à cette campagne de dénonciation, mais aussi, je dirais, de réaffirmation de l'importance du consentement?
Pour moi, en même temps, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je m'explique. En fait, c'est la visibilité que ça procure qui est pour moi très important. On ne se rend pas compte combien dans nos proches, il y a tellement de femmes victimes qui sont touchées par le harcèlement, par la violence sexuelle, par l'agression, et qui ont gardé ça secret pour elles. Donc, maintenant, avec ce campagne-là, on voit à quel point chacun, nous, on connaît une personne qui a déjà subi une agression. Pour moi, c'est un mouvement important.
Il faut rappeler aussi, tristement, que 40 % des femmes en situation de handicap auraient subi une agression sexuelle au cours de sa vie. Ou subirait, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle avec vous de sexualité avec les personnes en situation de handicap. Je ne peux pas vous demander comment on peut prévenir ça, mais comment, disons, comme parents, on fait pour éduquer, pour aider à ce que ça ne se produise pas? Est-ce que c'est possible?
C'est possible, certainement, et ça passe par l'éducation. En fait, pour rebondir sur 40 % évidemment, ça dépend des études, ça dépend des régions. C'est typé 40 % en Amérique du Nord, mais si on se rend compte à travers le monde, dans le monde du handicap, les violences subies par les personnes en situation de handicap peuvent être beaucoup plus élevées que 40 % Certaines études parlent de 70 %
Ah ouais.
Vraiment, M. Rasset, au niveau de la sexualité, là, uniquement. Donc, on ne parle pas des violences en général, mais des violences sexuelles. Effectivement, on peut prévenir l'agression sexuelle par le biais de l'éducation. Souvent, l'éducation à la sexualité est mise de côté au cas d'un enfant en situation de handicap. Les parents, malheureusement, ont tendance à angéliser leurs enfants en situation de handicap. Je m'explique, je veux dire, pour eux, c'est comme si la sexualité n'atteignait pas leurs enfants. C'est une question qui les préoccupe pas. Ils ne veulent pas les voir comme des personnes sexuées. Donc, bien, bien souvent, l'éducation sexuelle est mise de côté.
Et donc, on n'en parle jamais ou presque jamais avec ses enfants. C'est un peu ça.
Exactement, presque jamais. Et malheureusement, c'est la même chose en intervention. Donc, même l'enfant... situation de handicap, ne sera pas confronté à des questions de sexualité non plus avec ses intervenants. Donc, c'est une question qui est facilement mise de côté et la personne se retrouve peu outillée finalement à savoir ce qui est normal, ce qui est une agression, ce qui ne devrait pas arriver.
Donc, tout là est le problème, la difficulté d'en parler, etc. C'est pas facile pour les parents de le faire. Comment, comme parents, on peut mieux éduquer à la sexualité ou même au consentement?
Donc, déjà, c'est d'aborder la question, d'avoir un dialogue ouvert. Je sais que c'est quelque chose qu'on se répète souvent dans nos chroniques, là, d'ouvrir le dialogue sur la sexualité. Mais en tant que parent, c'est le premier pas à faire. Et si on n'est pas à l'aise, d'adresser la question aux intervenants de notre enfant.
Oui.
Moi, j'aimerais qu'il y ait une éducation à la sexualité. Je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et de plus en plus, on en parle, l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est la même chose au niveau de l'inclusion dans les écoles inclusives. Il faut que les enfants, aussi en situation de handicap, soient outillés pour être capables de reconnaître ce qui est une agression, ce qui ne l'est pas.
Ouais. Et puis, rappelez en fait, qu'est-ce que vous diriez comme sexologue si vous êtes en présence d'une personne qui vous pose les questions, les personnes en situation de handicap, comment on fait pour être clair, pour se prémunir de ça? Est-ce qu'il y a des moyens, à votre avis?
Oui, il y a des moyens. Il faut garder en tête la vulnérabilité à l'exposition du corps de la personne en situation de handicap.
Oui, tout simplement.
Donc, c'est là toute la différence avec une personne, finalement, qui ne serait pas limitée au niveau physique ou au niveau intellectuel. Donc, il faut rappeler que ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont en contact avec elle.
Oui.
Donc, pas juste une supposée ou une future amoureuse, amoureux, mais aussi ton corps t'appartient, peu importe qui a le toucher, finalement.
Oui, c'est ça. Puis, soyons honnêtes, puis d'ailleurs, plusieurs études le rappellent, les gens autour des personnes en situation de handicap, bon, c'est souvent le cas là, chez n'importe qui vit une agression, c'est souvent quelqu'un autour de soi qu'il commet, pas un étranger, mais chez les personnes en situation de handicap qui sont très vulnérabilisées par le fait qu'il y a plein de gens qui doivent les aider dans certaines circonstances à se laver ou prendre soin d'eux-mêmes. En tout cas, bref, comment on fait pour, comment je pourrais dire ça, informer ou se protéger de l'entourage qui doit prendre soin de soi?
Effectivement, c'est très difficile. Si on parle des agressions sexuelles en général, Benoît, dans la population, c'est souvent un proche qui commet l'agression.
Oui.
Donc, c'est d'autant plus important parce que les intervenants en soins de santé, les professionnels, ont accès au corps de la personne.
Oui.
Donc, c'est important. Et il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier de parler, c'est le désir sexuel qui peut être provoqué par la relation de soins.
Ouais.
Donc, c'est important d'aborder ça aussi avec les personnes, de dire c'est pas anormal, ça se fait que si on touche...
Faut pas condamner, il faut éduquer en substance, c'est ce que vous dites.
Absolument. Tous les aspects de la sexualité, et pas seulement par la peur de l'abus, par la peur de l'agression.
Mais plutôt par le dialogue.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Sonia Boucher. On vous retrouve sur Sexologue à domicile. Merci d'être là. À bientôt.
Un grand plaisir, comme toujours. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Les villes partout au Québec sont dans l'obligation d'adopter, quand elles comptent plus de 15 000 citoyens et citoyennes, un plan d'action pour les personnes en situation de handicap. Mais il y a des villes qui se sont démarquées avec le temps et qui proposent plutôt des plans, je dirais, plus larges. Donc, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi les autres qui pourraient bénéficier d'installations ou de communications accessibles. Et l'inclusion aussi est un thème qui est quand même important pour certaines villes. Alors, je pense ici à deux villes qui ont fait des efforts particuliers en ce sens. D'abord, Trois-Rivières et Victoriaville ensuite. Et je veux juste vous indiquer que par la suite, on va recevoir un groupe de défense de droit de Laval pour parler, bien sûr, de Laval. Donc, d'abord, avec nous, je ne sais pas qui est encore au téléphone. Ah, bon, OK. On tente de joindre Trois-Rivières et Victoriaville. On en parlera un peu plus tard dans ce cas-là. Alors, heureusement qu'on a avec nous en studio Mathieu Denéchaud, qui est responsable des communications pour le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Donc, bonjour Mathieu Denéchaud, pardon.
Bonjour Benoît.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Bon, alors c'est comme une habitude de l'émission. On va commencer avec l'organisme de défense de droit. On peut pas nier qui nous sommes. je sais que vous avez évalué un peu ce que l'administration actuelle a fait. Vous avez certainement des idées puisqu'on est en élection et que le 5 novembre prochain, il y aura une nouvelle administration à Laval, comme dans bien d'autres endroits. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'important sur la situation actuelle à Laval pour les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qui est notable?
Mais c'est sûr que là, l'émission est touchée sur les bonnes pratiques. Bon, au début, ça me fait un petit peu rire qu'on me contacte, nous, Europe, à Laval, parce qu'en effet, Laval, aujourd'hui, a une ouverture vis-à-vis de l'accessibilité universelle.
Oui, que vous pensez nouvelle ou plus récente?
Très récente.
OK.
Une ouverture de l'administration, une ouverture des employés municipaux, ça, on le voit de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mm-hmm.
Énormément de travail à faire. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus dans les documents structurants de la ville que la notion d'accessibilité, elle commence à apparaître.
Ouais.
Mais en termes de pratico-pratique sur le terrain, malheureusement, le citoyen, lui, il ne voit pas grand-chose qui a avancé ces dernières années en matière d'accessibilité.
Bon, très bien. Et donc, ce citoyen-là, j'imagine qu'il y a des attentes, le citoyen en situation de handicap. Est-ce qu'il y a un secteur où on a travaillé en premier? Est-ce que, par exemple, parmi le logement, transport ou ailleurs, il y a un secteur qui se démarque?
Ben, c'est sûr que les deux qu'on essaie de travailler, c'est quand même l'accessibilité architecturale de la ville
bien
de
sûr.
Laval. Ça, c'est majeur. La ville de Laval, en ce moment, elle est en restructuration complète, création d'un centre-ville, etc. Fait que c'est là où nous, on a voulu être présents. Puis on est toujours à travailler quand même avec la ville de Laval sur tous ces développements.
Ah oui,
de
c'est
manière...
vrai, il y a un centre culturel, il y a un espace
exactement,
au centre-ville qui est en train de créer,
ils
en
veulent
plus
vraiment
des commerces.
Dans une vision urbaine de nature qu'ils ont appelée à la ville de Laval, ils veulent de plus en plus faire en sorte qu'il y ait de la piétonnisation, qu'il y ait le réseau cyclable qui soit développé, etc. Fait que c'est sûr que nous, on s'intègre complètement là-dedans. Il faut que la place des personnes avec des limitations, elle soit faite et elle soit donnée surtout parce qu'on peut, on peut faire de la place. Malheureusement, si on ne la structure pas, cette place-là, on peut se retrouver facilement avec un trottoir sur la piste cyclable ou autre.
Ouais, voilà.
Exactement.
Ouais. Donc, il faut s'assurer quand même au minimum les bateaux pavés. Ça, c'est une petite affaire quand même.
Le
normalement,
bateau pavé,
la descente de trottoir, comme dirait l'autre, c'est un bon début.
C'est un très bon début. La plaque podo-tactile
aussi.
C'est sûr qu'il y a pas mal de petits outils en ce moment qui sont pris. On entend qu'aujourd'hui, à la ville, on prend nos remarques et puis elles sont intégrées. Malheureusement, elles ne sont pas toujours intégrées convenablement. Fait que là, ça, c'est encore un autre défi. Il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des employés municipaux.
Bon, eh bien, vous êtes là pour le faire. Alors, je rappelle que Mathieu Denéchaud est du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Rappelons que c'est à peu près 10 000 personnes le regroupées ou qui œuvrent avec 30 organismes.
Oui, 30 organismes.
Pas rien quand même.
32, exactement.
Oh, OK, ouais. Bon, bien. Alors, on a avec nous, à l'autre bout du fil, j'ai pas eu l'occasion d'entendre qui était avec nous. Est-ce qu'on s'adresse à Patrick Paulin ou Yves Lévesque?
C'est bien Patrick Paulin, Victoriaville.
Bonjour Patrick Paulin, très content d'être avec vous. Donc, rappelons que vous êtes conseiller municipal et en campagne, accessoirement, mais surtout président du comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle à Victoriaville. Alors, bravo d'abord, vous êtes une des rares villes qui en est rendue à autant de plans d'action. C'est votre septième
plan d'action, première planification stratégique quinquennale qui a été mise en place depuis mon élection d'ailleurs.
Ah
donc,
oui?
Oui, on a quand même un peu de vécu au niveau de l'accessibilité universelle à Victoriaville, puisque la première politique date de 1999. Donc,
oui.
On est les premières, je pense. On est majeurs.
Oui, c'est ça. Ben, vous êtes, je crois que c'est la première politique en accessibilité universelle au Québec, non?
Si ce n'est la première, c'est dans l'une des premières.
Okay.
Et surtout, elle a eu lieu avant les obligations gouvernementales qui ont été faites aux municipalités de se doter de plans d'accessibilité.
Bon. Et est-ce qu'on a réussi à rejoindre le maire de Trois-Rivières? Bon, parfait. Écoute. OK. Alors, j'ai pas eu l'occasion, je l'ai présenté d'emblée, mais je vous posais la question à vous, cher Victoriaville, parce que vous avez été aussi la première ville, ou la deuxième, en tout cas dans les deux premières, à proposer un programme d'aide à l'accessibilité au commerce.
Exactement.
Ben ça, parlez-nous un peu mieux de comment vous faites à Victo, puis comment ça va?
D'abord, il faut comprendre que Victoriaville, dès les débuts en 1999, la ville a décidé d'exercer un leadership partagé sur les questions d'accessibilité universelle.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un comité consultatif qui est composé d'une dizaine de partenaires représentant les grands types d'incapacités qui siègent, qui collaborent aux révisions de la politique, qui collaborent à la mise en place du plan d'action et qui va justement conseiller au mieux la ville pour avoir des aménagements. Donc là, on est sur une approche beaucoup de participation citoyenne et ça nous a amené à prendre un programme de subvention pour l'accessibilité des commerces. Alors effectivement, on est une des premières villes, on est la première ville à avoir instauré ce programme qui permet aux commerçants de rendre accessible physiquement leur commerce pour toutes les personnes qui ont des incapacités.
Mais c'est très bien, et je vois même dans votre plan d'action, puisque vous l'avez fait pour 2 ans jusqu'en 2018, ça c'est quand même ratoureux après les élections. Mais non, je vous en veux pas parce que votre objectif est ambitieux, vous proposez rien de moins que 75% des commerces et services qui seront accessibles en 2018 ou 2019 ou à peu près là.
C'est la cible qu'on s'est fixée quand on a fait même la planification stratégique, donc en 2014, qu'on s'est doté de cet outil dont découle le plan d'action dont vous parlez. Mm-hmm. Et vous savez, dans cette vision de leadership partagé, avant d'aller en planification stratégique, on a voulu encore une fois s'appuyer sur les forces vives de notre milieu, que sont les commerces, les entrepreneurs. Donc on a fait un forum d'accessibilité, on a réuni nos membres de l'économique, du communautaire, des associations, du municipal, en se disant comment on peut atteindre une ville inclusive, accessible.
Ah, et c'est heureux ça, ouais.
Donc là, on a travaillé, on a fait de la recension, on sait qu'on a 106 places d'affaires actuellement qui sont accessibles totalement ou partiellement. Okay. On a reçu au mois d'avril la certification Destination pour tous.
Bien, de Kérol.
De Kérol, qu'on a co-développé avec cet organisme d'ailleurs comme certification. Donc on a vraiment l'ambition de devenir une ville parfaitement accessible, inclusive. Mm-hmm. Tant pour nos citoyens que pour les touristes. Et ça, dans notre message, ça se ressent parce que nos partenaires d'affaires y voient également un intérêt. Vous savez, on a une mentalité où on ne veut pas simplement faire la promotion de la sensibilisation, mais on veut impliquer la totalité de la population dans cette démarche parce que rendre un lieu ou un service accessible, si c'est essentiel pour une partie de notre population, c'est confortable pour l'ensemble de la population.
Voilà, et c'est pour ça que vous avez décidé d'opter pour l'accessibilité universelle.
Exactement. Bon. Et voilà.
Bien, très heureux d'entendre ça. Alors, si vous permettez, pour s'assurer de faire entrer tout le monde dans la danse, on va aller vers un pont musical. On se reparle dans quelques instants. Nous sommes de retour à l'émission Accès libre et on s'est permis de faire un tour d'horizon. On s'excuse de la part de la mairie de Trois-Rivières. Il y a eu un empêchement qui empêche le maire Yves Lévesque de présenter ses bons coups, ses réalisations aussi. Ceci dit, je veux juste attirer votre attention sur le fait que Trois-Rivières a quand même plusieurs engagements. Là, je vous invite, vous électeurs et électrices, à aller voir. Il y a un plan d'action aussi qui est dédié à la fois aux familles et à l'accessibilité universelle. Donc, on va profiter des gens qui sont qui sont avec nous. Patrick Paulin est conseiller municipal sortant et aspirant aussi. En fait, vous aspirez toujours à devenir conseiller ou vous, vous êtes candidat à la mairie? J'ai pas l'info.
Non, non, je me borne au plus proche de mes citoyens. Donc, conseiller municipal bon. En charge du développement social en plus. Donc, on brigue bon. Un deuxième mandat.
Voilà, bon, ben, on rappelle que vous êtes encore engagé. Vous allez continuer à le faire après les élections, j'imagine, à vous occuper de ce dossier.
Quel que soit le résultat des élections, mon combat restera le développement social, dont l'accessibilité universelle.
Parfait. Écoutez, j'aurais envie, parce qu'on a avec nous Mathieu Denéchaud, qui est du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. D'ailleurs, je veux juste rappeler qu'il existe dans votre région aussi un ROP, comme on dit, un regroupement d'organismes de ce type-là. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, est-ce que vous connaissez les gens de Mauricie, en fait, pas de Mauricie, de Centre-du-Québec?
On collabore avec tous ces partenaires-là, oui.
OK. Bon, bien. Ce que nous proposait aussi Mathieu Denéchaud, c'est d'observer d'autres questions sur l'accessibilité architecturale, mais aussi vous souhaitiez parler d'un autre thème, si je ne m'abuse.
En fait, dans le cadre, nous, des élections, la plateforme de demande commune qui a été montée Europe, elle passe par l'accessibilité architecturale, mais elle passe par tous les volets de l'accessibilité universelle. Donc, communication, service, on a fait le balayage de tous les besoins en matière d'accessibilité universelle à la ville de Laval et on leur propose sur un plateau toutes ces demandes.
Parfait. Donc, je m'inspire, si vous permettez, de M. Denéchaud. M. Paulin, est-ce que, au-delà de l'accessibilité architecturale, qui est très importante, hein, les gens en parlent beaucoup, est-ce que vous pensez aux communications, est-ce que vous pensez à d'autres aspects de l'accessibilité universelle qui toucheraient peut-être les personnes aveugles ou des personnes qui ne sont pas nécessairement aux prises avec des problèmes de mobilité, là?
Bien entendu. Tantôt, justement, je parlais de notre comité consultatif qui nous sert de chien de garde, qui nous sert également d'impulsion et d'inspiration pour aller plus loin dans l'accessibilité. Et effectivement, ce n'est pas simplement l'accessibilité aux infrastructures, aux édifices qu'il faut viser, mais une accessibilité globale. On parle bien sûr des médias substituts. On est la deuxième ville maintenant. On a été la première ville à avoir du LSQ à toutes nos séances de conseil public. On est équipé, toutes nos bibliothèques sont équipées également d'appareillages permettant la lecture pour les gens qui ont des incapacités visuelles. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est l'accueil.
Oui.
Parce que c'est bien beau de pouvoir rentrer dans un édifice. Faut-il encore que la personne qui est en charge de l'édifice ou du service sache comment interagir et offrir une aide qui soit adéquate à la personne qui en a besoin? Donc là, on a lancé un grand programme, d'abord pour viser l'exemplarité de notre municipalité. Nos employés, directement en contact avec les citoyens, sont formés à plusieurs types d'incapacités. Et on a étendu, avec la certification Destination pour tous, on est en train d'étendre ces formations à l'ensemble des partenaires commerçants.
Ah oui, donc vous offrez pas seulement ces formations-là au personnel, aux élus, etc., vous impliquez les commerçants. Très, très
bonne idée. Il faut que ça soit une communauté qui soit accueillante et inclusive. Et vous savez, en préambule, je vous ai dit, la ville de Victoriaville a choisi de se positionner dans une posture de leadership partagé. Donc, justement, on va être soutenant, on va être accompagnant, mais il va falloir que toute notre communauté nous soutienne pour le bien de chacun de nos citoyens, quelle que soit sa situation ou sa condition.
Bien sûr. Mathieu Denéchaud, qui est au ROP Laval, j'imagine que dans vos revendications communes, il y a la question de la formation du personnel.
C'est la première.
Ah oui?
C'est la première. C'est la première parce que déjà, quand j'entends monsieur en parler aussi bien, c'est vraiment inspirant parce que d'entendre un élu, d'entendre des employés qui portent le dossier en interne de l'organisation, de l'administration, c'est vraiment très positif.
Puis ben nous, oui.
C'est comme ça qu'on le voit. C'est la première chose à faire. C'est le travail de sensibilisation, le travail de formation de tous les employés, que ça passe des personnels d'accueil, mais jusqu'à l'ingénieur et à l'urbaniste. Ça, c'est très, très important.
Ben voilà. Et donc, on le disait d'ailleurs, mais on le dit souvent à cette émission, une des premières discriminations, c'est surtout la discrimination liée aux attitudes. Très
exactement,
souvent.
Ouais.
Donc, si on arrive à expliquer aux gens que les comportements sont importants, que c'est le début de l'inclusion, ben, faut le faire avec tout le monde.
Exactement.
Si vous me permettez, oui, d'ailleurs, on parle beaucoup de formation, formation personnelle, sensibilisation. On a commencé depuis 3 ans, nous, des activités de sensibilisation où on a mis tous nos élus, non seulement du municipal, mais du provincial également, qui couvre notre secteur, mm-hmm. en situation de handicap, et puis on leur a confié la mission d'aller magasiner dans notre centre-ville, parce qu'il faut déjà comprendre les problématiques pour essayer de pouvoir s'en occuper. Mm-hmm. Donc on parle de formation, de sensibilisation, mais je vous parlais également de l'exemplarité de la ville. Nous devons être un lieu d'inclusion, d'intégration dans notre milieu de travail.
Ah oui.
Absolument. Il faut qu'on puisse être une place, parce que ça, c'est la meilleure des sensibilisations pour les gens qui n'ont pas d'incapacité, c'est de travailler avec la richesse d'une personne qui est en position d'incapacité. Mmh. Et là, on vient jouer sur la participation sociale de l'employé, mais on vient contaminer positivement également le milieu de travail. Donc, on offre, bien sûr, on a des employés qui sont en situation de handicap divers, mais également, on offre le stage tremplin, qu'on appelle chez nous. Donc, c'est un an à une personne pour pouvoir venir prendre de l'expérience.
Ah, mais ça, c'est heureux. C'est rare, les municipalités qui s'engagent sur le plan des ressources humaines, des employés. Enfin, c'est tout à votre honneur. Si vous me permettez, je vais profiter 2 instants de Mathieu Denéchaud juste avant qu'on se laisse, parce que ça fait partie de vos bons coups, hein, on va se le dire. C'est celui-là aussi qu'on va retenir. Pour vous, en terminant, Mathieu Denéchaud du ROP Laval, c'est quoi le bon puis le mauvais coup de Laval?
Le bon coup aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer l'accessibilité universelle dans ses politiques, dans son schéma d'aménagement. Ça, c'est les bons coups des derniers mois. Ça, c'est très, très important parce que ça le nomme et ça va faire partie des fondations de Laval. Fait que c'est un début. Okay. On en est très loin, mais c'est un très bon début.
On va dire que c'est le bon et le mauvais coup en même temps. On est loin, mais on est dans la bonne direction.
Exactement, on est dans la bonne direction.
Patrick Paulin, conseiller municipal et président du comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle à Victoriaville et aussi en campagne. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mathieu Denéchaud, agent de développement et communication au regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Merci.
Merci beaucoup.
Dans l'oubli, les pupilles fidèles se réveillent éblouies au passage envoûtant de chaque mouvement que je laisse en sillage à votre discrétion. J'en sorcelle à penser, flâneurs impatients, j'en mon miroir émane le reflet de jouvence. Le temps est mon amant, me vénère en silence, me recouvre d'atours, m'enveloppe en cellophane. Je suis votre perdition, votre péché. Tout, je suis à vous, le détour.
La campagne électorale ne fait pas encore beaucoup de place pour les personnes en situation de handicap, mais heureusement, des valeureux, des valeureuses prennent la place, et c'est le cas d'un de ceux-là, Pascal de Mainville, candidat comme conseiller municipal pour Option Capitale Nationale. Bonjour Pascal.
Salut Benoît.
Bonjour. Donc, vous avez déjà fait campagne en politique avec Québec solidaire, Option Nationale. Je vous poserai la question avant de parler de handicap, là, est-ce que c'est difficile d'être un candidat associé à la gauche à Québec?
Est-ce que c'est... oui, évidemment.
Bon.
Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer ça. Là.
Non, mais c'est parfait, on n'ira pas plus loin, promis. Mais donc, si on y réfléchit, est-ce qu'on réfléchit davantage à faire de la politique quand on est en situation d'handicap?
Non, mais c'est une question de conviction pour le handicap, parce que dans mon cas, ça n'interfère pas. Je veux dire, bon, j'y vais par conviction, puis c'est tout comme n'importe qui, ouais. Comme toute autre personne là, qui n'est pas une personne handicapée, là, nécessairement. Là.
Puis vous avez toujours eu envie de la politique?
Ben moi, j'ai été impliqué une vingtaine d'années sur des différents conseils d'administration, puis aussi dans une chambre de commerce comme secrétaire souvent. Donc, c'est le genre de... Oui, bon, essayer de faire avancer les choses, essayer de faire changer les choses, ou... Pour la cause des personnes handicapées, mais aussi, mettons, pour participer à la société aussi, plus généralement. Là.
Puis il y a beaucoup d'exclus, il y a beaucoup de gens qui sont exclus de la société pour laquelle vous vous batteriez particulièrement?
Ben, les personnes handicapées, moi, je considère qu'en 2017, c'était un gros dossier qui reste à régler encore et toujours. Les autres catégories de la population, ça va relativement bien, mais pour ce qui est des personnes handicapées, c'est pas encore fait. Particulièrement pour les gens qui utilisent des roues, on rencontre régulièrement, surtout à Québec où le transport en commun, entre autres, n'est pas accessible. On est limité au transport adapté avec le manque de subventions, puis les délais que ça demande, on n'a aucune spontanéité, aucune liberté, donc... Chose qu'à Montréal, il y a des problèmes, c'est sûr. Mais c'est quand même mieux qu'à Québec.
Oui, bien c'est sûr qu'il y a plus de ressources, on le sait. Puis il y a quand même un mélange de transport collectif accessible et de transport adapté. Là. Ça donne quand même plus de choix. Mais est-ce que vous diriez que l'enjeu de la mise en accessibilité du transport collectif, ça serait ça la priorité à Québec en ce moment pour les personnes handicapées?
Oui, bien je mettrais ça sur le même pied que l'accessibilité des bâtiments.
Ah oui, hein?
Ben oui, bien sûr, parce que, bon, on va dans le vieux Québec, notamment sur la rue Saint-Jean, il n'y a rien d'accessible. Quand tu utilises des roues qui est un peu faites, là, je veux dire, tu ne rentreras pas nulle part là. D'ailleurs, c'est ce qu'on joue à Option Capitale Nationale, on veut amener un peu comme obliger positivement, si on peut dire ça comme ça, l'adaptation des édifices publics et privés. Il existe des subventions provinciales au niveau du Québec puis au niveau du Canada. Puis nous autres, on va donner aussi un remboursement du coût des travaux de la première année pour l'adaptation en plus de 1%.
Un remboursement à 100%?
Non, un remboursement équivalent au coût des travaux de la première année pour l'adaptation. Mais anyway, ça va se faire durant la première année, l'adaptation.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est
ensuite, ça va être 1%. De moins sur les taxes commerciales ou foncières, tout le temps que la bâtisse va demeurer adaptée.
Ah, mais c'est ambitieux, c'est bien ça.
On veut appliquer les principes de ville inclusive du RIPPH, le réseau sur le processus de production du handicap.
Oui, rappelons d'ailleurs que la plupart des éléments sont basés à Québec, aussi de ce réseau-là qui est essentiel pour la réflexion puis l'éducation au droit aussi, puis la recherche.
Bien sûr, ils font beaucoup d'ateliers, de conférences. Ils sont basés
donc, à Port-de-Charles. C'est ça, vous êtes vraiment associé à ces groupes-là, ce réseau-là, le RIPPH. J'ai vu aussi que vous êtes déjà impliqué au Cap-Viche.
Le RIPPH, je ne connais pas.
Ah, OK.
Je suis amis Facebook avec les autres.
OK. Comme nous sommes amis Facebook, moi et vous aussi, là.
Exactement. c'est ça. Moi, je ne connais pas personnellement, mais c'est quelque chose que je suis parce qu'évidemment, ils mettent des publications sur Facebook.
Oui.
Puis évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse pour des raisons évidentes. On en parle depuis déjà une minute ou deux.
Oui.
C'est ça. Donc,
vous avez conscience du temps. D'ailleurs, il reste que 30 secondes, un mot de la fin.
Okay.
Qu'est-ce que vous allez faire exactement dans cette campagne-là? Qu'est-ce que vous proposez
en quelques mots?
Ben, en gros, ce que je dirais, comme les personnes handicapées, je l'ai dit, sinon pour les gens, pour la population en général, on propose une modulation de la taxe foncière, dépendamment de si tu habites près ou loin du centre-ville. Autrement dit, tu habites plus, moins tu participes à la congestion du centre-ville, eh bien, moins tu vas payer de taxes aussi. Il y a le transport en commun gratuit.
Ouais.
C'est ça, là, avec un train électrique accessible aux personnes handicapées.
Donc, vous avez trouvé ce qu'il faut faire dans l'avenir maintenant, joindre l'accessibilité universelle au développement durable. Est-ce que c'est un peu ça?
Oui, évidemment.
Bon.
C'est absolument nécessaire. Il est temps qu'on arrête d'en parler, qu'on prenne des mesures.
Qu'on le fasse.
Ce problème-là.
Donc, Pascal Mainville, candidat pour Option Capitale Nationale. On surveille votre parti. D'ailleurs, il est possible d'aller de vous retrouver sur le web. Vous êtes un des 6 partis. Merci beaucoup. Je vous remercie non seulement à vous, mais à tous ceux et celles qui sont venus à l'émission. Merci aussi à Anne-Laure Janson, la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications. Ici Benoît Racette. Vous pouvez non seulement lire tout ça sur notre page sur canalm.vusezvoix.com, mais en plus, vous pouvez entendre dans le câble et ailleurs, peut-être, dans la magie. Enfin, on se reparle la semaine prochaine avec des tonnes d'invités. Restez à l'écoute, il y a plein d'émissions en accès libre.